considèrent pas comme telles après réflexion, et puis qui ne sait pas vraiment, soit parce qu'il n'a pas vraiment bien compris ce que c'était le spécisme et l'antispécisme, ou parce qu'il n'a pas assez réfléchi. Je pose la question en faisant des levées de main, alors qui se considère antispéciste?
Moi beaucoup.
Qui est certain qu'il ne l'est pas après avoir réfléchi? Et qui? Oui. Toi aussi? Tu grattais le nez, je crois que tu faisais la main. et donc qui se demande ou n'est pas sûr, quoi.
Moi, j'ai jamais levé le droit oui. D'aucune des. Parce que je me suis jamais dit est-ce que je suis différente des animaux ou est-ce que je ne suis pas, est-ce que je suis différente de la nature, est-ce que je ne suis pas. Je veux dire que tout ce qui a le droit au respect, et à la, je trouve que c'est respectable. J'ai jamais fait des départs comme ça. J'ai pas ça dans la tête, je veux dire que j'imagine pas. Je pense qu'il y a une continuité. D'ailleurs, c'est ce que disent les scientifiques, c'est ce que disent Dawkins quand il dit que pour un biologiste, le spécisme, ça n'existait pas. J'ai jamais ressenti ni racisme, ni. J'ai jamais ressenti ça. J'ai jamais ressenti. Donc, je peux pas répondre si je suis antispéciste ou pas spéciste, parce que je sais pas ce que ça veut dire. J'ai jamais ressenti.
Comment?
Mais si ça vous plaît de dire que je suis antispéciste. Mais oui, c'est ça, ça me semble.
Alors,
et ma chatte m'a dit qu'elle était antispéciste. Alors ça, moi, je l'ai battue ce jour-là.
Je posais la question parce qu'en fait, n'étant pas au gîte précédemment, ni à l'aide, j'ai aucune idée un petit peu du type de personne et des pensées que vous avez. C'est aussi parce que du coup, dans ce que je vais présenter, pour être un peu plus bref que j'aurais pu être si j'étais arrivé plus tôt, je vais passer un peu plus vite sur les parties initiales du coup qui. Sont relativement classiques, je dirais, hein, qui étaient plus spécifiques, mais passer peut-être à des points un petit peu plus originaux dans une seconde partie. Ouais. Ce sont des transparents que j'ai terminés assez tard hier soir, vu les poches que j'ai sous les yeux.
Ce matin,
après, sont arrivés les heures des fichiers. Donc je vous demande de votre indulgence et je vais m'aider de quelques notes. Alors, pour moi, le spécisme, ce qu'on va. Alors, je vais faire comme si vous ne connaissiez pas. Hein, Donc ce dont on va parler aujourd'hui, c'est s'interroger sur une idée reçue, c'est-à-dire l'idée que les intérêts d'un individu comptent pour pas grand-chose, en tout cas pour moins que ceux d'un autre, simplement parce qu'il n'appartient pas à la même espèce. C'est une idée qui est tellement répandue dans notre société qu'elle paraît une évidence totale, et que de même en discuter, ça peut faire sourire et paraître un petit peu ridicule. C'est une idée que moi-même j'ai eue pendant longtemps, avant d'y réfléchir un petit peu plus. Donc cette idée... Elle s'appelle le spécisme par analogie avec le racisme, puisque le racisme, c'est aussi l'idée qu'un individu, ses intérêts comptent moins que ceux d'un autre, simplement parce qu'il appartient à une espèce plutôt qu'à une autre, au sexisme, parce qu'un individu est une femme et pas un homme, tout simplement. Donc, le spécisme, on peut appeler ça en quelque sorte, donc le racisme de l'espèce. Il faut se rappeler, cette idée elle paraît donc évidente, hein, un individu, un animal, ça compte moins qu'un humain, dans la société ça paraît évident aujourd'hui. Il faut se rappeler qu'il y a assez peu de temps encore, ça paraissait assez évident, assez logique que les femmes elles votent pas parce qu'elles étaient quelque part un petit peu moins importantes que les hommes. Et puis il n'y a pas très longtemps non plus, c'était il y a 150 ans en France encore, il y avait des esclaves, hein, c'était autorisé par la loi et c'était aussi assez naturel, hein, puisque les Noirs ils comptaient peu moins que les blancs, c'est enfin, beaucoup moins. Donc avant de conclure que ce qui est évident est vrai, il faut regarder d'un peu plus près, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, d'abord, il faut, pour bien comprendre le spécisme, on va voir à deux niveaux. Donc on va voir au niveau des idées, qu'est-ce que c'est que cette manière de voir les animaux par rapport aux hommes, et comment cette manière de voir influence notre manière de faire, notre manière d'utiliser les animaux. C'est très important de comprendre comment la manière de voir influence notre manière de faire, parce que c'est pas du tout anecdotique. Si je prends un exemple très concret, jusqu'il y a quelques années, dans les années 60 encore, début des années 70, les bébés, les nourrissons humains, là en l'occurrence, on les considérait essentiellement comme des estomacs, en gros, qui crient quand ils ont faim, et pas beaucoup, beaucoup plus. Quoi. Il n'y avait pas du tout d'études qui étudiaient leur comportement, le mouvement de leurs yeux, etc., comme ça a été fait depuis, et de voir que ce sont aussi des êtres sensibles. Et donc, comme on ne savait pas trop non plus qu'est-ce que ça voulait dire que de ressentir la douleur comme on était un bébé, quand on était un bébé, on faisait des opérations très, très couramment, des opérations y compris très violentes, sans anesthésie. Hein. Donc aujourd'hui, on n'est pas très sûr non plus de ce que ça veut dire que de ressentir la douleur quand on est un bébé. On n'a pas beaucoup, beaucoup d'éléments pour savoir vraiment concrètement non plus. Ah bon. Mais néanmoins, comme les bébés en tant que personne, on dit, il y a des livres, hein, le bébé est une personne, ça compte plus. Ses intérêts ils sont pris en compte, même hauteur, presque encore que celui d'un adulte, ben, on l'anesthésie. Donc la différence entre deux façons de voir les choses, là au sujet des bébés, c'est simplement, pour lui, la différence entre une séance de torture dans le bloc opératoire ou le fait de passer un moment endormi dans un sommeil profond.
Par des fœtus ou des bébés?
Je parlais des bébés en l'occurrence. Les pratiques que nous allons évoquer, ce ne sont pas des pratiques individuelles, hein, des pratiques de cruauté d'une personne qui ne nous dirait rien sur le spécisme, hein, mais des pratiques institutionnalisées, hein, qui veut dire que ce dont on va parler, c'est un problème de société, un problème politique. Quelques mots sur le fait de parler au nom des animaux. Il faut avoir conscience que c'est un devoir, mais aussi une difficulté. C'est un devoir parce qu'évidemment, ils ne sont pas capables de s'exprimer eux-mêmes, bien que certains le fassent quand même, hein, quand on les mutile ou quand on les enferme, ils protestent par des cris, ils essayent de s'échapper, ils se débattent, mais socialement, ils ne sont pas capables de s'organiser, aller faire une manifestation, évidemment, c'est visible. Et donc, oui.
On peut dire quelque chose après, mais si c'est possible qu'ils s'organisent et qu'ils fassent des sortes de grèves, c'est possible. Ça s'est conduit à Iki avec les dauphins.
D'accord, intéressant.
À Iki, dans l'île d'Iki, au Japon, où les dauphins ont été massacrés par les Japonais qui les accusaient de tuer des poissons, de bouffer leurs poissons qui leur revenaient aux Japonais. Et donc, ils ne voulaient pas que ces poissons soient mangés par les dauphins, donc ils ont tué les dauphins. Et le lendemain, c'est Paul Watson qui raconte ça dans son livre « Au nom des mers ». Paul Watson qui se bat pour les animaux marins, entre autres. Il se définit comme un défenseur de la nation cétacée. Donc Paul Watson raconte que le lendemain, les pêcheurs n'ont pas pu avancer. Il y avait des milliers de dauphins qui ont bloqué le port.
Effectivement, vu comme ça, quand on regarde aussi les fourmis, par exemple, hein, dans un comportement collectif, et qu'on vient attaquer la fourmilière, on peut effectivement réagir de manière commune et collective, hein, c'est vrai. C'est un devoir parler au nom des animaux, je dirais, quelque part comme c'est un devoir parler au nom des enfants, c'est la même chose, ils ne peuvent pas non plus parler en public et s'organiser socialement pour le faire. Mais c'est aussi une difficulté parce qu'on parle au nom de quelqu'un qui ne peut pas s'exprimer contre celui qui parle et on est capable de projeter sur lui des intérêts qui ne sont peut-être pas réellement les mieux pour lui-même. Je fais une petite parenthèse sur ce topo, c'est que je voudrais dire que je ne présente rien de nouveau ici et que tout ce que est là est en fait pour moi un petit peu la synthèse de tout ce que j'ai lu depuis deux ans à peu près, de toute la littérature et avec beaucoup, beaucoup à rendre hommage quelque part à tout ce qui a été écrit par Peter Singer et les cahiers antispécistes, plus énormément de contributions autour des listes qui parfois paraissent un petit peu légères par rapport à des messages parasites souvent, mais où il reste finalement à la fin de la semaine quelques idées fortes qui moi en tout cas m'ont marqué. Donc vous allez retrouver ici certaines choses que vous avez pu vouloir dire ou écrire sans nécessairement citer. L'idée que les animaux ne peuvent pas parler, non seulement ils ne peuvent pas s'exprimer, mais aussi c'est important dans la présentation qu'on a d'eux, c'est-à-dire, ça, en fait, c'est une anecdote qui me revient à l'esprit, qui est arrivée simplement à Carrefour, devant la poissonnière, l'étal sur lequel il y avait l'étal de homards vivants qui était sur de la glace pilée avec les pinces insérées dans des élastiques, des gros élastiques, vous avez déjà vu ça, qui étaient à l'air libre. Et qui bougeaient à peine doucement, quoi, les uns sur les autres. Et j'ai posé la question à cette vendeuse de savoir si un homard ça respirait dans l'air ou dans l'eau. En fait, je ne savais pas à l'époque. Elle m'a répondu que ça respirait dans l'eau, ce qui est effectivement le cas, j'ai vérifié depuis. Et donc je lui dis, mais alors du coup, ils sont en train d'agoniser là, ils ne peuvent pas respirer, ils sont là un petit peu comme si nous on se noyait, sauf que apparemment ça dure pendant des heures. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils souffrent, quoi, c'est horrible, non? Et elle me dit, vous n'avez qu'à leur demander. Donc je réponds évidemment oui, sauf qu'ils ne peuvent pas parler. Ah ben dans ce cas-là, c'est qu'ils ne doivent pas souffrir alors. Et en fait, elle m'a répondu ça du tac au tac. Et donc, ce que ça exprimait pour elle, à mon avis, ce n'était pas simplement une blague, quoi. C'était finalement dans sa tête, évidemment qu'elle s'est peut-être posé un petit peu la question. Elle savait que ça respirait dans l'eau, quoi. Elle les voyait bien bouger devant elle depuis un moment, quoi. Simplement, le fait qu'elle ne puisse pas les entendre hurler, crier, souffrir, ça lui évitait de faire quelque chose qu'elle n'avait pas envie de faire, qui était soit de les tuer, soit d'aller voir le boss et puis de lui dire que peut-être c'était cruel de faire ça, sachant qu'un mort vivant, un homard mort, ça se vend moins cher qu'un homard vivant. Elle préférait pas faire quelque chose qui allait être un petit peu compliqué à gérer. Donc, il ne parle pas, donc il ne souffre pas. Un dernier obstacle quand on parle des animaux, c'est que beaucoup de nos intérêts, alors pas beaucoup de ceux dans la salle, mais ceux à qui cette présentation est destinée, beaucoup de nos intérêts sont opposés à ceux des animaux, déjà parce que beaucoup de gens travaillent dans des domaines, des industries qui sont liées directement ou indirectement à l'utilisation des animaux, et puis aussi parce que je pense que même tout à fait inconsciemment, quand on regarde une vache qu'on a devant soi et qu'on se demande qu'est-ce qui est le mieux pour son intérêt, et qu'on a en fait à ce moment-là dans l'estomac un morceau d'une autre vache qu'on est en train de digérer, on a certainement du mal à avoir un raisonnement tout à fait neutre dans ce cas. Donc on va essayer de faire au mieux. On va voir assez brièvement un premier point sur qu'est-ce qui définit une discrimination juste ou injuste, puisque assez fréquemment quand on parle de l'antispécisme, un peu rapidement, je trouve que ce qui est compris en face, c'est dire tout le monde est égaux, d'accord, les humains oui, ils se ressemblent tous à peu près, les différences sont mineures, mais les animaux quand même, c'est pas pareil entre un homard et un humain, et toi tu dis qu'ils sont égaux, c'est un petit peu absurde, quoi. Alors ça c'est ne rien comprendre à ce que c'est qu'une discrimination juste ou injuste. Donc il est nécessaire, malheureusement, c'est une idée un peu compliquée, c'est un obstacle à la diffusion de la lutte contre le spécisme, mais c'est nécessairement quelque chose qu'il faut aborder de front. Quelques mots sur ce qui rapproche ensuite, dans une deuxième partie, des animaux des humains. Troisièmement, une description, un petit peu une radiographie de la pensée spéciste. Comment est-ce que malgré la diffusion d'idées de l'être sensible dans la société, la pensée spéciste reste forte malgré tout? Comment elle peut négliger ses intérêts des animaux? La principale façon de voir les animaux actuellement, qui est sous forme d'animal machine, hein, mais machine pour produire des marchandises. Hein, et puis la question de savoir si tuer un animal est un meurtre ou pas, qui est une question qui est, pour rappeler les notions de défense animale tout à l'heure, totalement occultées, que je me souviens David avait évoqué dans une idée de dénonciation de la peine de mort à étendre les notions des animaux, et qui, je crois, en fait, peu après avoir eu dans une discussion un petit peu correcte avec quelqu'un, en fait, est abordée de manière très très directe et être comprise. Et ça, en tout cas, c'est ma surprise quand j'arrive à le faire. Et puis, une conclusion sur le nouvel humanisme. Alors, la discrimination juste ou injuste, je passe un peu vite par rapport à vous ici, c'est la distinction entre une discrimination qui est arbitraire ou qui n'est pas arbitraire. L'égalité en droit qui est exprimée par la philosophie des droits de l'homme, hein, de dire tous les hommes sont égaux, c'est bien sûr de dire que malgré leur discrimination, en fait, c'est pas qu'ils sont égaux, c'est justement parce qu'ils sont différents qu'on a besoin de dire qu'ils sont égaux. C'est parce qu'ils sont différents, c'est parce qu'on est tenté de faire des différences de race, de force physique, de richesse, etc. C'est parce qu'ils sont différents que du coup il a fallu proclamer les droits de l'homme et que le mouvement humaniste a eu son rôle à jouer. Donc c'est aussi pour moi le point de connexion avec la lutte contre le spécisme, c'est parce que justement les hommes et les animaux sont différents qu'il y a besoin d'exprimer ça. et non plus comme aujourd'hui, la vision du humanisme, c'est tous les hommes sont pareils, tous les hommes se ressemblent, et c'est pour ça qu'on les traite de la même manière. C'est pas ça. Donc si on prend sur la colonne de gauche, simplement certains des critères qui sont dans la Déclaration des droits de l'homme, universelle des droits de l'homme des Nations Unies de 1948, on retrouve comment est-ce qu'un critère peut être arbitraire ou non. Et on voit qu'en fait, le même critère, par exemple l'âge, n'est pas en soi arbitraire ou non arbitraire. Donc de dire que le critère de l'espèce est arbitraire ou c'est pas arbitraire, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose comme ça. Il faut préciser un petit peu. Donc l'âge, est-ce que c'est un critère arbitraire ou non ? Si on dit que dans un divorce, seuls les intérêts des individus majeurs comptent, c'est effectivement arbitraire, puisque les enfants évidemment ressentent ce qui se passe, ils sont concernés par les conséquences de ce qu'on est en train de décider. Ce serait donc une discrimination arbitraire sur l'âge de ne pas tenir compte de leurs intérêts. Par contre, de dire qu'ils n'ont pas le droit de voter, c'est pas arbitraire, parce qu'en fait ça sous-entend un autre argument derrière, qui est qu'ils n'ont pas certaines capacités qui leur permettraient d'exprimer dans la société leur avis, en tout cas sous la forme dans laquelle le vote est fait aujourd'hui, qui fait qu'on ne leur donne pas le droit de vote. Sur la race, pour prendre un exemple presque humoristique, l'idée de dire qu'une discrimination sur la race peut être justifiée, hein, c'est l'idée de regarder un casting sur un film sur Martin Luther King, évidemment, on va prendre un noir. Donc, la question qui est posée maintenant, c'est de savoir dans quel cas l'espèce est elle-même un critère, une discrimination arbitraire ou une discrimination justifiée. Pour moi, c'est la même chose de dire arbitraire, injuste, injustifié. Si ce n'est pas justifié, c'est arbitraire, c'est a priori, c'est donc injuste. C'est donc ce à quoi on va s'attacher maintenant. Alors, il y a une chose tout de suite à comprendre, c'est que on pourrait dire l'espèce c'est pas un critère arbitraire, on va peut-être voir ça, d'accord, je viens de croire, mais quand même c'est un critère qui diminue le problème, hein, pour l'animal, parce qu'il n'est pas humain, donc il ressent moins les choses. Ça c'est une idée qui est extrêmement répandue et que moi j'ai gardé encore assez longtemps, même après m'être considéré antispéciste, c'est-à-dire quand même dans beaucoup de cas il ressent un petit peu moins les choses, quoi. C'est un peu moins développé, quoi. La culture un peu moins compliquée, les émotions peut-être un petit peu moins fortes, etc. Et en fait je pense plus du tout ça. Il suffit de prendre quelques exemples et de faire quelques analogies avec un enfant. Sur beaucoup d'aspects, on peut dire qu'un enfant ressemble à un animal, dans le sens qu'il est moins conscient de lui-même, il est moins capable de s'exprimer, de raisonner, etc. Et si on regarde si on a un enfant ou un chien, on va dire dans ce cas-là ça ne va pas être très différent, et que c'est des premières fois qu'on quitte la maison, on va le voir, l'enfant ou le chien, hurler, paniquer, les yeux complètement exorbités, dans un état de panique totale. Alors on dit en général, oui, bon, il fait des caprices, quoi. Ce qui est un véritable scandale, en fait. Hein. On dit qu'il fait des caprices parce qu'on n'a pas envie d'entendre ce qu'il dit à ce moment-là, qu'il est visiblement, il n'y a aucun doute, dans un état complètement dévasté. Et ce qu'on voit, c'est qu'il est submergé par ses émotions à ce moment-là, probablement justement le fait de ne pas être un peu raisonnable, un peu plus conscient de lui-même, un peu plus intelligent à ce moment-là, ça ne lui permet pas de gérer mieux ses émotions, peut-être, en tout cas c'est une hypothèse qu'on peut faire, et certainement ça ne lui permet pas de mieux comprendre la situation, qui est que simplement on va faire des courses et qu'on va revenir dans la demi-heure.
Et comment est-ce qu'il pourrait être défini s'il n'a pas la parole? Il ne peut pas être défini que soit tu vas faire des courses et tu vas revenir.
Absolument.
Donc ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de communication. Et donc, tu devrais toi être intelligent, savoir lui communiquer.
Merci de ta remarque. Et c'est donc bien l'idée que, à ce moment-là, on ressent des choses de manière plus forte. Un autre exemple, si on est entassé dans un train, par exemple, qu'on est un enfant humain ou un animal, et que l'on est conduit vers une destination qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, qui fait très chaud, qu'on n'a pas pu boire pendant un moment, on peut aussi être dans un état de stress physique, mental, très très fort, au contraire du parent qui sait que là, heureusement pour cette famille, on les conduit en fait à la plage. Donc l'espèce, c'est pas, ça peut être un facteur aggravant de ne pas être un humain. On va maintenant regarder, là on vient de parler justement de comment les animaux ressentent les choses et qu'on voit que ça a un impact sur savoir si on doit prendre en compte leurs intérêts ou pas. On va donc regarder un petit peu plus près qu'est-ce que ça veut dire que de ressentir des choses. C'est donc la notion d'être sensible. Une autre difficulté à lever, là je fais toujours une parenthèse pour les personnes de cette salle, c'est quand on discute du spécisme, je ne vois pas qu'on puisse ne pas parler de la notion d'être sensible, puisque pour moi c'est même le fondement, la pierre angulaire, hein, puisque c'est là, c'est presque un principe de réalité, c'est qu'est-ce qui est réel dans tout ce qu'on dit, ce qui est juste, ce qui est injuste, c'est pas très clair, c'est des idées, hein, on peut peut-être en discuter. Par contre, ce qui paraît indéniable et ce qui est corroboré à la fois par l'expérience personnelle qu'on peut en avoir et aussi par la science d'aujourd'hui, c'est que c'est ce que ça veut dire que d'être un être sensible, de ressentir des choses. Donc, on ne peut pas faire l'impasse sur cette notion-là quand on discute, et c'est aussi nécessaire pour faire des distinctions entre des animaux aussi. Donc, être sensible, le problème, c'est que c'est un mot un petit peu connoté. Sensible, ça veut dire je pleure un peu facilement, quoi, hein, j'ai des émotions un peu rapides, quoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sensible, ça veut dire simplement on ressent des choses, au sens que Hitler, c'était un être sensible, parce que s'il marchait sur un caillou pointu, ça lui faisait mal, quoi, alors que le caillou sur lequel Hitler il marche, lui, il a pas mal parce qu'on lui marche dessus. Donc la question de la sensibilité, on peut effectivement, je pense que dans ces discussions-là, il faut le faire tout de suite, c'est reconnaître qu'il n'y a pas le même niveau chez tous les animaux, il faut désamorcer ça tout de suite. Et donc, on peut se poser la question, effectivement, pour les mollusques, on pourrait se poser la question sur les insectes, hein, donc il y a des études en cours sur ces sujets-là qui sont... laisse beaucoup de portes ouvertes. Par exemple, si on regarde une araignée, qu'est-ce qui ne nous dit pas que, bien qu'elle était pendant des heures sur sa toile, sans rien faire, sans bouger, qu'au moment où il y a une mouche qui, malheureusement pour elle, vient s'échouer dans la toile et que la toile remue, qu'à ce moment-là, l'araignée, certes, sans aucun doute, il y a des mécanismes physico-chimiques qui vont dans son... dans ses neurones, provoquer à un moment donné les mouvements des pattes et puis se diriger vers l'origine du mouvement. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas à un moment donné quelque chose qui se produit, qui est à la limite de l'existant, qui n'existe presque pas, qui apparaît comme une flamèche et puis qui fait évanescent immédiatement dans son mental quelque part, au moment où ça se produit. On n'en sait rien, on ne sait vraiment pas rien. Je ne sais pas si on en saura quelque chose un jour, mais la question reste posée. Par contre, pour un chien, celui qui pense que quand on lui donne un coup de pied, qui gémit, qui part en courant et trois jours après il nous regarde avec des gros yeux en grognant quand on croise son chemin de nouveau, qui pense qu'à ce moment-là il n'a rien senti du tout, on peut se demander si, pourquoi est-ce qu'on a plus de raisons de penser que quand on donne un coup de pied à cette personne-là, qu'elle gémit, qu'elle part en courant et puis trois jours après il nous regarde avec des drôles de yeux, pourquoi est-ce que là elle a eu mal pour de vrai à ce moment-là? Surtout que par des études au niveau hormonal, cérébral un petit peu aujourd'hui, comportemental certainement, on voit des similitudes très très fortes entre les réactions physiques et physiologiques à la douleur entre les espèces. Aussi comprendre qu'un être sensible, c'est pas seulement un être qui réagit à la douleur physique, comme on l'évoquait tout à l'heure. Il est absolument crucial de comprendre qu'un être sensible, c'est aussi quelqu'un qui peut souffrir d'autre chose que de torture. Hein. Ce sont des êtres qui peuvent avoir, sur tous les domaines qui sont listés ici, des besoins, hein, aussi des intérêts, des préférences, qui sont au niveau de leur vie corporelle. Hein, c'est aussi la volonté de repos, la vie émotionnelle, on peut avoir peur, se sentir bien, en sécurité, etc. Au niveau de la vie relationnelle, avoir besoin des autres, se sentir en état de manque du fait que d'être séparé de son groupe ou d'être proche. Quoi. Et ça, aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute que d'autres animaux que les humains peuvent le ressentir. Je prends simplement, et je vais me baser sur quelques points là, à la suite de ce que pose beaucoup sur de la littérature, de l'exploitation animale, de nos points de vue, c'est-à-dire littérature de l'élevage, hein, de quelques revues auxquelles je me suis abonné, comme le filière avicole, hein, pour l'élevage des poulets, ou des revues, je ne sais pas si vous connaissez, comme Réussir Port. Donc, tout ça, ce sont des revues, c'est pas la PMF, hein, c'est pour les éleveurs, hein, et optimiser la production. De tenir compte des nouveaux développements dans leur domaine. Donc ce qui est écrit dedans, ça peut difficilement être soupçonné d'être biaisé dans le sens négatif. Alors, je cite l'agence dans cet article qui était sur le bien-être des porcs, hein, de, sorti dans ce journal il y a un an et demi, je crois. Donc, les truies sont fondamentalement des animaux sociaux. À l'élevage, les truies vivent en petits groupes et dorment les unes contre les autres dans des nids communs. Lors du sevrage des porcelets en plein air, dès que vous avez enlevé la truie, les porcelets sortent des limites du parc pour trouver la truie et ils passeront les clôtures alors qu'ils ne l'ont jamais fait en présence de la mère. Ça, c'est un éleveur qui parle, hein, un éleveur en plein air. J'ai vu des charcutiers. Alors oui, un charcutier, c'est, dans ce cas-là, c'est pas la personne qu'on a l'habitude de voir derrière la vitrine, dont on voit la tête derrière la vitrine de la charcuterie. Hein, ce sont les animaux dont on voit la tête derrière la vitrine de la charcuterie. Donc j'ai vu des charcutiers élevés en plein air, ne pas manger pendant 24 heures, simplement parce qu'on avait enlevé un cochon du lot, et les autres le cherchent. Un petit peu plus loin, page 62, il parle du problème des porcs qui n'ont rien à faire, et qui donc s'énervent entre eux, un petit peu comme quand on enferme des enfants dans une pièce, qui s'ennuient, ils finissent par se chamailler, se taper dessus. Quoi. Et donc ça nous montre que leurs besoins ne sont pas réduits à simplement boire et manger. Quoi. La solution, donc, dit cet éleveur, c'est installer des... c'est un chercheur, en fait. Un chercheur en élevage. La solution, installer des jeux dans les cases de porcs pour satisfaire leurs besoins d'exploration. Spontanément, on pourrait penser que de simples chaînes métalliques, des cordes, un ballon ou un pneu pourraient suffire à contenter les porcs. C'est vrai à court terme, mais peu efficace dans la durée. Les porcs charcutiers se désintéressent relativement vite des objets trop simples. On parle là d'animaux qui nous ressemblent un petit peu, qui ressemblent à des animaux familiers qu'on connaît, qui eux-mêmes souffrent. Comme je crois, ça a été présenté par Yves, je crois, il y a quelques jours, avant-hier, au niveau des poissons aussi, ça a été fait, je crois, ce topo. Hein. J'aime bien la citation attribuée, je crois, à Louis de Funès, qui a été postée sur une liste, hein, qui disait qu'il avait été pêché lorsqu'il avait compris que les poissons, lorsqu'ils pendaient hors de l'eau sans pouvoir respirer, avec un hameçon qui leur transperçait la bouche, ils se tordaient, mais pas de rire. Quoi. D'après une liste, quelque chose, c'est pas très précis comme introduction. La coupure radicale homme-animal, en fait, on ne voit pas fondée au niveau du fait que nous sommes des êtres sensibles comme certains des animaux. Elle est effectivement sans fondement scientifique depuis Darwin. On a l'impression que Darwin, c'est un petit peu comme le moment où on a compris que la Terre, elle tournait autour du Soleil et pas l'inverse. Ça met du temps un petit peu à s'établir parce que ça nous rend, on était très central dans l'univers, puis on est un petit peu moins, donc c'est un petit peu dur de s'y habituer, mais ça vient doucement. Et donc on fait des distinctions qui sont encore de manière très habituelle, qui sont non pertinentes éthiquement. Et je dirais en fait même, je pense beaucoup d'entre vous aussi, malgré la réflexion sur la question animale, très fréquemment, on a tendance à penser dans des catégories, presque des paradigmes, comme dirait Pierre Morin, là, hein, des fondements de notre manière de penser, qui distinguent, alors pour certains ça va être l'homme de la nature, hein, il y a des débats sur ce sujet-là aussi, donc c'est une distinction qui est possible, hein, et donc sur lequel je ne vais pas relancer le débat. Une autre distinction vivant-non-vivant aussi, qui peut donc, distinction qui peuvent aussi être faites en complément d'une distinction être sensible, être non sensible, simplement de mon point de vue, si l'intérêt, je voudrais pas nécessairement d'y répondre tout de suite, si l'intérêt d'un objet naturel ou d'un objet vivant non sensible vient contre celui de l'intérêt l'intérêt de l'être sensible, c'est évidemment l'intérêt de l'être sensible qui pour moi seul a validité. La distinction qu'on vient de faire et qu'on considère pertinente éthiquement, c'est celle des êtres sensibles et non sensibles. Et donc il y a des animaux, de toute raison de penser, qui sont aussi des êtres non sensibles. C'est ce statut à mi-chemin de l'animal entre l'être sensible et non sensible, c'est-à-dire à la fois dans la réalité, mais aussi dans nos idées, c'est ce qui traduit le flou qu'il y a actuellement au niveau juridique, notre topo aussi de cette semaine, cet après-midi, sur le fait de savoir si l'animal est une personne ou pas. Et en fait, la vraie bonne solution, et c'est ce qui est en train d'émerger, et je pense que c'est une évolution très fondamentale, c'est que la notion d'être sensible soit reconnue dans la loi, comme dans le traité d'Amsterdam ou dans la constitution allemande. Hein. Le traité de Rome. Regardons maintenant comment est-ce que malgré la communauté d'êtres sensibles entre les hommes et beaucoup des animaux, en tout cas certainement les animaux d'élevage, comment est-ce que la pensée spéciste arrive à maintenir l'idée que les intérêts d'un animal comptent moins. Alors, en fait, ce que je veux qu'on fasse, c'est pas qu'on s'intéresse à la question de savoir si un intérêt égaux celui de l'humain l'emporte, c'est-à-dire que si il y a une douleur égale hein, entre je frappe un homme et je frappe un animal qui ressent une même douleur, est-ce que c'est plus grave ou moins grave hein, de taper l'homme ou l'animal et d'essayer de faire une hiérarchie, de dire que c'est la même chose. De mon point de vue, c'est pas une question qui est très intéressante pratiquement. Philosophiquement, mais pratiquement, il ne me paraît pas très intéressant parce que aujourd'hui, dans la société, l'utilisation des animaux, c'est en fait qu'un intérêt même trivial d'un humain compte beaucoup plus qu'un intérêt même majeur d'un animal. Donc c'est ça qui est intéressant de discuter. Et je pense que quand on discute aussi avec des personnes non sensibilisées à ces questions, on peut rentrer assez vite dans la discussion sur l'égalité animale et de dire ça compte autant en partant de l'idée d'égalité au sens où on l'a vu précédemment. Hein. Mais du coup, ça, on parvient très vite à un discours qui, de mon point de vue, n'est pas entendu. En tout cas, moi, je n'arrive pas à le formuler d'une manière où je suis entendu. Par contre, si on pose cette question-là, et que du coup, on peut, dans ce cas-là, se référer à des exemples concrets par rapport à l'élevage, alors c'est beaucoup plus fort parce que ça demande moins de chemin à parcourir pour celui avec qui on discute. Et puis, les exemples où vraiment il faut choisir entre un homme et un animal, comme l'exemple de Saint-Pierre-Nel de la maison en feu, ils sont finalement assez rares. Hein. Dans la vie quotidienne et dans nos choix quotidiens. Ils ne sont pas des cas comme l'expérimentation médicale. Enfin. Alors, je passe en revue un certain nombre de caractéristiques de la pensée spéciste qui, selon moi, parviennent, je dirais presque par un tour de prestidigitation à maintenir que même un intérêt mineur d'un animal compte moins qu'un intérêt, un intérêt majeur d'un animal compte moins qu'un mineur d'un humain. Par ces biais-là. Tout d'abord, il y a l'idée que notre éthique, notre morale ne s'applique pas pour les animaux. Il y a eu plusieurs versions de cette façon de voir. Tout d'abord, qui est tout simplement le fait de dire qu'il n'y a pas d'obligation morale directe envers les animaux, soit parce qu'on a pu penser à un moment donné qu'ils ne souffraient pas, type Descartes, bien sûr, soit dans des philosophies morales de type contractuarianisme, je ne sais pas comment dire en français, les animaux ne font pas de contrat, etc. Je ne rentre pas beaucoup et je pense que ce n'est pas très intéressant dans les discussions quotidiennes d'aller là-dedans. Simplement, il suffit de dire que ces théories-là, elles sont aussi décrédibilisées par le fait qu'elles ne donnent pas de devoir, d'obligation directe vis-à-vis des enfants, donc ils ne sont pas non plus rationnels, n'ont pas de langage. Il y a une autre façon de dire que notre morale ne s'applique pas pour les animaux, c'est d'avoir deux éthiques différentes. On en sort une pour les humains, et puis une autre qui va donner les résultats qu'on a envie hein, pour les animaux. Quoi. Et ce qui est assez fréquemment fait, en fait, c'est qu'on utilise la morale du respect de la personne, hein, ceux qui sont un peu dans le domaine, au sens un peu de Tom Regan, par exemple, et donc de dire que l'individu, c'est typiquement la philosophie aussi des droits de l'homme, hein, de l'humanisme, c'est de dire que l'individu a des droits fondamentaux, on lui doit un respect absolu. C'est ce qui, par exemple, proscrit l'expérimentation sur un humain. Et parce que, bien que, malgré le fait que ce soit utile, que ça pourrait être utile pour l'intérêt général. Donc on se prive de quelque chose de bien pour l'intérêt général pour préserver le respect de la personne. Mais dans ce cas-là, l'expérimentation scientifique, qu'est-ce qu'on fait avec les animaux? Évidemment, on dit que c'est utile, hein, c'est une souffrance, mais c'est une souffrance utile. Parce que ça permet, c'est vrai, je le pense aussi, dans certains cas, de sauver des vies, pas toujours, parfois c'est pour des cas point de four, mais parfois ça permet de faire progresser aussi des traitements. Et justement par rapport à je pense, une certaine proximité des hommes et des animaux, les vivisecteurs, les expérimentateurs ont bien conscience et bien qu'on a qu'ils utilisent les animaux dans ces cas-là. Donc, donc quand on utilise les animaux, pour ces raisons que je viens de dire, on considère qu'il y a une primauté de l'intérêt commun qui dépasse l'intérêt individuel de l'animal à ne pas être exploité, à ne pas souffrir dans ce cas-là. Donc évidemment, les animaux là sont perdants dans ce coup-là, on ne sort pas les mêmes règles du jeu. Une autre façon, on l'a déjà vu, c'est l'idée que le seul préjudice qui compte, c'est la souffrance physique. Une autre manière encore de négliger les intérêts des individus animaux, c'est simplement de ne pas les regarder comme des individus, mais comme des spécimens d'une espèce, sujet qui a possiblement été abordé dans les thèmes sur la nature. Si effectivement on ne voit pas un individu, mais une espèce, on va s'intéresser aux intérêts de l'espèce, puisque c'est ça dont on parle, par exemple de se continuer par l'intérêt de l'individu, peut-être de ne pas souffrir ou de ne pas mourir. Je prends un exemple illustré avec un exemple sur les poissons. Donc, on a évoqué que les poissons étaient des êtres sensibles qui pouvaient souffrir déjà physiquement. Ici, ce que je vous montre, en fait, c'est un extrait d'un article de Science et Vie, il y a quelques mois, sur le sort de la pêche dans les filets des statistiques. Un article qui étudie s'il est légitime de continuer à pêcher les poissons dans les zones où il n'y en a presque plus et que du coup le stock de poissons va se tarir. On en parle déjà un petit peu comme des céréales, quoi, qui repousser. Si on regarde un petit peu plus près cette photo et qu'au lieu de regarder au niveau là, d'un groupe d'individus, poisson, mais qu'on se rapproche un petit peu et qu'on regarde ce qu'il y a dans ce filet, ici on découvre des individus presque en chair et en arête qui ont les yeux là qui peut-être nous regarderaient si on était un peu plus près d'eux et qui, quand on sait ce que ça veut dire que d'être écrasé dans ces filets, être hors de l'eau sans pouvoir respirer, avoir peut-être été traîné avec les écailles arrachées et la chair à nu, c'est une véritable torture, une horreur. Et quand simplement effectivement on choisit de le regarder d'un petit peu plus loin et qu'on en parle au niveau de statistiques, on ne voit plus que du poisson et plus de souffrance. Donc la souffrance n'existe plus. Enfin, la dernière façon de voir de la pensée spéciste que je vais mettre en avant et qui est pour moi celle qui est la plus terrible en termes de conséquences, c'est celle de considérer que les animaux existent pour être utilisés par nous. C'est une idée qui est extrêmement répandue et qui, je dirais, laisse des traces aussi pour moi chez quelqu'un comme moi-même qui a réfléchi sur la question. C'est très très profondément ancré dans notre culture, dans le langage, au point que dès l'enfance, voilà un livre, j'ai un fils de 3 ans, que je pourrais trouver dans sa bibliothèque aujourd'hui, La Truie et Porcelets, sur la première page, on lit « Les cochons sont élevés pour leur viande, quoi. Leur raison d'être, c'est de donner de la viande. » Donc cette idée, elle n'est pas étrangère au monde de l'homme aussi, bien sûr, on peut dire qu'on a aussi considéré dans le passé, on continue de considérer les humains comme étant simplement des objets pour nos propres fins. Parfois soi-même, on s'utilise comme tel, on s'exploite, moi cette nuit à préparer, c'est transparent, sans tenir compte d'autres besoins de l'être sensible. Dans le cas du monde de l'entreprise, c'est l'évolution vers les droits des salariés, depuis des formes, on va dire même de commencer par l'esclavage, qui est que l'esclave n'est là que pour être dans son rôle d'esclave et faire son travail, jusqu'à des formes de plus en plus sophistiquées de droits sociaux qui se sont développés. Et donc dans ce cas-là, c'est simplement qu'on oublie l'être sensible, on ne voit plus que dans une certaine de ses composantes. Et donc ce que ça amène à faire en fait, c'est à classifier les animaux suivant l'utilité qu'on a, vis-à-vis de ces, notamment la distinction animaux sauvages, gibier, domestique, familier. C'est une distinction de la manière dont on les utilise, effectivement. Ça existe, c'est dans la réalité. Par contre, c'est très vite devenu une prescription morale, c'est-à-dire ça nous dit la manière dont on peut les utiliser. La manière dont on les utilise devient la manière dont on peut les utiliser. Et on voit que, suivant les catégories d'animaux, on ne les utilise pas du tout de la même manière. Par exemple, un animal familier, on ne peut pas, comme du gibier, le tirer à la carabine. On ne va pas élever des chiens dans des cages et puis les laisser courir dehors, les tirer dessus à la carabine, puis certains les laisser agoniser dans un coin, les autres les manger, et puis certains les jeter. Donc, notre morale dépend de l'utilisation qu'on fait des animaux. Une autre classification qui est très très centrale, c'est celle de ceux que l'on mange et ceux que l'on ne mange pas. De la même manière, l'idée qu'il y a des animaux que l'on mange et des animaux que l'on ne mange pas, c'est une description d'une réalité. Mais ça devient très vite ce que l'on mange, ça devient très vite ce que l'on peut manger dans notre esprit. On va l'illustrer en image. Effectivement, je parlais bien sûr de manière majoritaire dans notre société. Si tout ça est bien sérieux, je crois. Quand on regarde ces visages, on ne voit pas une différence fondamentale dans leurs yeux qui nous inciterait à en manger certains, pas d'autres, sachant que quand on les mange, ce n'est pas tout à fait indifférent ce qui leur arrive, ne serait-ce que parce qu'on les tue. Maintenant, disons quelques mots sur la façon la plus fréquente de voir l'animal, plutôt je devrais dire de le réduire, hein. On le réduit à l'utilité qu'il a pour nous, en oubliant les autres aspects de son être sensible qu'on a vu tout à l'heure, hein, ses besoins émotionnels, ses besoins sociaux, relationnels, etc., même intellectuels. La première façon de réduire l'animal, c'est de réduire à une chose, une marchandise, hein, une chose qui nous intéresse est une marchandise, hein, c'est quelque chose qui se vend, qui s'achète, se transporte d'un acheteur à un vendeur à un acheteur. Dans un topo avec un petit peu plus de temps, j'aurais montré aussi, je pense, aussi un extrait d'un DVD que j'ai apporté. Au moment où je parle de la coupure radicale ou non homme-animaux, la jonction, de manière plus évidente, c'est évidemment avec les grands singes. Hein. Donc j'ai un DVD qu'on pourra regarder pour ceux que ça intéresse, qui ne connaissent pas de Coco, c'est une femme gorille qui parle le langage des sourds-muets américains, vous connaissez ses expériences, donc je ne connais pas précisément les conditions dans lesquelles elles sont faites d'ailleurs, qui est assez touchant de proximité avec nous quand on les regarde. Une autre chose dont je souhaiterais montrer un extrait typiquement dans un topo plus grand public, c'est Charlie Darwin, c'est l'Odyssée de l'espèce. Je ne sais pas si certaines vous l'ont vu, c'est passé sur Affaire 3 il y a quelques mois. J'ai un DVD qu'on peut regarder ensemble aussi. Hein. C'est évidemment l'homme qui se questionne sur comment il est devenu homme et a émergé du monde animal. Hein. C'est un peu ce qu'il y a derrière. Où est le premier homme, hein, cette recherche absurde du commencement. Mais néanmoins, ça montre précisément la proximité homme-singe. Et d'ailleurs, au niveau du végétarisme, il y a des scènes pas tellement ravoutantes des premiers. Première consommation de chair animale par les humains qui est toujours bonne à montrer. Quand je dis que l'animal est vu principalement comme une marchandise dans l'utilisation qu'on en fait, en l'occurrence dans l'industrie de l'élevage, je prends dans ce magazine, c'est Réussir Fort en l'occurrence, je crois que ça avait été plus ou moins repris sur une des listes, hein. Le comité régional porcin propose trois mesures qui visent à alléger le marché pour favoriser un retour à des cours meilleurs. Premièrement, financer une opération de dégagement de marché sur des pays tiers. Troisièmement, baisser la gamme de poids des 2 kg. Troisièmement, abattre 2000 porcelets par semaine pendant 10 semaines. C'est-à-dire que là, on voit que, en fait, un individu peut avoir une valeur négative. Hein, c'est-à-dire que le fait de le supprimer crée de la valeur.
Le... 100 000 porcelets d'ici la fin de l'année. Oui, c'est une élimination de 100 000 porcelets avec un plan justement mensuel. C'est le final qui est chargé de cette.
En suivant la gravité qu'on accorde à la mort, on en a tout à l'heure, peut-être dans certains cas, c'est un endroit qu'on leur fait, suivant le point de vue qu'on a sur la mort, dans les conditions dans lesquelles ils sont arrivés. Une autre façon de voir l'animal, c'est de le voir comme un corps vivant. Mais en fait, c'est toujours une chose. On dit c'est vivant, on pourrait penser qu'il y a plus d'égards qui nous sont donnés, mais non. Quand c'est un corps vivant, à ce moment-là, c'est que c'est un objet d'expérience. On l'a évoqué tout à l'heure. Il nous intéresse en tant que sa biologie dans ce cas-là. Et même quand on étudie son cerveau, dans des expériences en neurobiologie, par exemple, ce qui intéresse, c'est pas le fait de savoir s'il ressent ou pas les choses dans le sens que ça serait préjudiciable, dans le sens que ce serait moral ou pas que de le faire souffrir, mais dans le sens de savoir comment ça se passe dans sa tête quand il pense, qu'il réfléchit ou éventuellement qu'il souffre. Alors là, j'ai une vidéo en fait que j'ai pas envie de vous montrer, que certains ont peut-être déjà vu, simplement aussi de Maliche, je sais pas si ça vous dit quelque chose, d'un singe.
Un
singe en Israël, voilà, en fait. J'ai pas envie en fait de la montrer maintenant, si certains veulent la voir. Elle n'est pas particulièrement sordide en termes, mais simplement on voit ce singe de 3 ans qui vit dans une cage insuffisamment abreuvée pour qu'il ait en permanence besoin et soit décide avec les expérimentateurs et dans lequel on a effectivement enlevé la boîte crânienne et fait passer des électrodes lorsqu'on fait des expériences où on immobilise pendant quelques heures la tête isolée dans des vis pour regarder un ordinateur et voir qu'en l'occurrence il s'est compté. Il range des groupes d'ensemble par l'ordinal de l'ensemble, on le voit, on se sent assez mal pour lui de le voir. Et quand on a vu auparavant Coco le singe qui joue avec son chat et qui dialogue avec les humains, on se pose quelques questions quand on n'est pas vraiment dyslexique. Une troisième façon d'utiliser l'animal, c'est son corps mort, c'est son cadavre, hein, c'est la matière première. Produits transformés. Le fait de prendre, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le corps de l'animal, on prend ses organes, ses muscles, son foie, etc., suivant les animaux. Il y a un contraste assez fort qu'on voit entre les humains et les animaux au niveau du fait de prendre les organes. Pour les humains, en fait, on prend aussi les organes et ça sert à quelque chose. En fait, il ne faut pas dire. De la même façon qu'il ne faut pas dire qu'utiliser un individu, c'est une mauvaise chose. Moi, je suis utilisé par mon entreprise, hein, et pourtant, je n'ai pas l'impression d'être exploité. Et pour les organes, c'est pareil. On peut avoir une carte de donneur dans son portefeuille, hein, pour donner ses organes. Ce n'est pas en soi une mauvaise chose. Ça peut être pourtant une très belle chose. Ça peut permettre de sauver des vies. On peut voir un petit peu le contraste entre la manière dont on aborde le don d'organes du point de vue des humains avec celui que l'on fait avec les animaux. Donc là, c'est une campagne télévisée pour le don d'organes qui était passée il y a un an et demi à peu près et qui représente une jeune femme qui s'appelle Stéphanie qui, en l'occurrence, a perdu son compagnon qui est mort quelques temps avant cette vidéo et qui lui-même avait accepté de léguer ses organes.
Visiblement, il avait ça en lui, quelque chose de très beau, de très vivant. Dans le don d'organes, il y a donné. C'est...
Le don d'organes, en parler, c'est agir.
Ça, c'est quand on parle d'humain, c'est fait d'une manière très belle et c'est très respectueux et c'est des choses qui sont plutôt jolies dans la société. Par contre, quand il s'agit d'un animal et qu'on a envie de prendre ses organes, ce qu'on fait, c'est qu'on le pousse de force dans un camion, on l'emmène à l'abattoir, et ensuite, il se passe ce que je montrerais si j'étais avec un autre public, que j'ai pas envie de montrer des extraits de vidéos PMF d'abattage. Il faut aussi voir que dans les deux cas, si on continue le parallèle quelques instants, dans le cas de l'humain, on prend quelqu'un qui est mort, qui, d'une manière directe ou indirecte, ou par sa famille, a donné un consentement à ce qu'on prenne ses organes. Et on utilise ses organes pour sauver une vie. Quand il s'agit d'un animal, on prend un animal vivant, on le tue, et on utilise ses organes pour faire de la viande ou une paire de chaussures. Enfin, la dernière manière très présente de voir l'animal, c'est d'être comme une machine et plus seulement comme une chose, hein, une machine à produire des marchandises, produire de la viande, du lait, des œufs, de la laine, etc. Et donc il y a toute une science, toute une industrie, toute une activité, des recherches qui sont orientées autour de maximiser, optimiser cette machine, hein, ça s'appelle la zootechnie, et jouer sur toutes les conditions de nourriture, d'éclairage, etc. pour améliorer la machine. Je prends quelques exemples issus de l'exploitation animale. En fait, je suis embarrassé avec les vidéos qui sont assez pénibles à regarder. Je ne sais pas si vous voulez. Je ne sais pas si je dois les passer, si vous le souhaitez ou pas. Moi, je les connais. En fait, il y en a une. Je dis ça, c'est par rapport à l'impact. Il y en a une. Donc, je vais vous montrer juste le début. Je vais arrêter, en fait. Que je trouve assez forte parce que c'est cette vidéo-là, en termes d'impact, je la trouve puissante parce que elle est, c'est celle-ci. C'est pratique en élevage pour ça. En fait, j'ai commandé ça chez Ducabri Édition, donc ça a été fait avec des écoles d'élevage. Hein, et c'est pour expliquer à un éleveur et à des étudiants comment faire l'élevage de porc. Donc dedans, on voit, d'ailleurs pour moi, c'est un peu un brûlot ce truc-là, ils sont fous d'avoir fait ça. On voit tout ce qui se passe dans l'élevage de porc industriel, filmé par les éleveurs eux-mêmes. J'ai pris un extrait dedans qui est pour moi l'endroit où, de manière la plus flagrante, on voit le contraste entre un intérêt totalement mineur de l'humain et un intérêt majeur de l'animal, c'est celui de la castration des porcelets. Donc je vais m'arrêter avant le démarrage réellement de l'opération. C'est assez pénible à regarder, mais vous allez voir le contexte dans lequel on les présente.
La carrière d'un porc se peut long glacement.
Je laisse un petit peu les dommages précédents. Les soins à la naissance, le mot de soin est particulièrement bizarrement choisi.
La plupart des interventions sont réalisées sur des porcelets sous la mer. Les soins sont nécessaires à la naissance. La coupe des dents, en général 24 heures après la naissance.
Je comprends, la coupe des dents est nécessaire suite à la sélection génétique.
Il faut épointer deux dents par demi-mâchoire afin d'éviter les blessures aux tétines lors de la tétée. On peut utiliser une pince coupe-dents ou même une pince d'électricien. Mais il faut prendre garde de ne pas abîmer la langue et les gencives. Le raccourcissement et la désinfection du cordon ombilical. Les cordons frais seront coupés à 4 ou 5 cm par étirement manuel. On les désinfecte avec une solution à base d'iode, par pulvérisation ou mieux, par immersion complète. Le raccourcissement de la queue a lieu un jour après la naissance ou au moment de la castration. La pince d'électricien est fréquemment utilisée, notamment pour les naisseurs en plein air. Mais son usage provoque souvent de petits saignements et donc un risque d'infection. Les coupe-queues thermiques, à gaz ou électriques, permettent de couper tout en cautérisant. On réalise une injection intramusculaire de 2 ml d'une solution injectable de fer, soit 200 mg de fer dextran. L'objectif est la prévention de la crise des 3 semaines, anémie ferriprime chez le porcelet. On utilise une aiguille stérile par portée et on réalise l'injection dans les masses musculaires du cou ou de la cuisse. On notera que les naisseurs en plein air se dispensent presque toujours des injections de fer, car les porcelets fouillant dans la terre ne sont quasiment jamais carencés. La castration d'un porcelet mâle est réalisée afin d'éviter le risque de mauvaise odeur de la viande à la cuisson. Pour castrer un porcelet, il faut attraper calmement.
Comme on l'entend dans la suite de la vidéo, en fait, le porcelet crie, hurle, je dirais, hein, au moment où ça se produit. On voit en fait dans les magazines pour éleveurs, où on vend aussi donc ces coupe-queue électriques, ces appareils à castrer et ces meuleuses de dents ici, hein, on a l'impression d'avoir un catalogue d'objets de torture, tout ça pour améliorer le goût de la viande. En fait, on voit aussi sur d'autres la vente d'écouteurs type Walkman ou comme sur les chantiers, hein, parce qu'il nous est indiqué ici bruit, poussière morale, préserver votre santé. Première source de pénibilité en porcherie, le bruit. Les castrations génèrent environ 94 décibels. C'est pas par rapport aux machines, hein, c'est par rapport au cri du porcelet dont il s'agit. Nous recommandons donc le port de protection individuelle. Donc, il n'est pas mieux l'idée peut-être d'arrêter de le capter. Pour éviter qu'il crie. Une autre façon d'améliorer la machine à produire de la viande, du poulet, c'est de jouer sur la génétique de l'animal plutôt que simplement sur son environnement. Hein, on peut aller plus loin. Alors ça, c'est pas nouveau, ça se fait depuis que l'homme a domestiqué l'animal, puisque les animaux domestiqués sont des sélections génétiques par les moyens traditionnels qui ont abouti à des animaux qui eux-mêmes ont déjà des déformations. On pourrait dire par rapport à ce qui peut être convenable à leur planète. On disait tout à l'heure que la truie, que les dents des porcelets abîment les tétines des truies. On peut supposer que c'est quelque chose qui pose peut-être pas véritablement de problème sur les truies qui vivaient naturellement, peut-être pas, je ne suis pas certain. Par contre, ce qui est beaucoup plus clair, c'est que le fait que les truies elles soient enfermées dans ces stalles, elles continueront de l'être, hein, même après les réformes 2012, après, dans les jours qui suivent les naissances, pendant qu'elles allaitent les petits, ça c'est parce qu'elles sont devenues tellement grosses, quand elles bougent un peu, elles risquent d'en écraser, ce qui n'était pas le cas auparavant, puisque les cochons sont devenus surdimensionnés, et ça c'est pas seulement récemment, hein, ça fait longtemps depuis la domestication. Maintenant évidemment, avec la zootechnie et les moyens modernes, et les divers instituts, type INRA, etc., qui travaillent sur le sujet, on est capable d'aller beaucoup plus loin maintenant, en attendant même des interventions génétiques de manière directe. Donc je prends aussi quelques exemples issus des livres d'élevage. Ce livre qui a l'intention des étudiants en élevage de porc, encore une fois, la manipulation et l'intervention en élevage porcin. Je peux vous demander pourquoi je parle toujours des cochons. C'est qu'en fait, un des moments assez clés pour moi dans la prise de conscience de ce qui se passait dans notre société vis-à-vis des animaux, c'était la visite d'un élevage en Bretagne, un élevage de porc industriel qui est tenu en fait par ma belle-sœur et mon beau-frère, qui ont, je crois, quelque chose comme 200, 300 truies, et qui me l'ont présenté de la manière la plus naturelle du monde à l'époque. Comme si on visitait le jardin, ils montraient leur entreprise, quoi. C'est d'ailleurs pour moi assez crucial d'avoir ce contact renouvelé avec eux, parce que ça me permet de garder, je dirais, quelque part les pieds sur terre et de comprendre en fait que les éleveurs qui castrent les animaux qu'on vient voir là, qui les enferment dans des cages, il ne faut pas, parce qu'ils ne sont pas des personnes cruelles en soi, ils sont simplement des personnes qui sont dans un mode de pensée partagé dans la société. Ils ont certes une responsabilité tout à fait claire du fait de faire eux-mêmes de leurs mains ce que l'on voit, mais c'est certainement pas comme dans certains emportements de voix, on pourrait dire, des comportements qui sont cruels par une volonté de cruauté. C'est même ce qu'il y a de, en fait, assez terrible, c'est que ce serait quelque part plus simple et plus facilement gérable si la souffrance qui était créée était générée par de la cruauté. Et c'est assez ironique, quand je vais en fait déjeuner chez eux, ils disent ça. Évidemment que je suis végétalien, presque bien, véganiche, je me disais il y a quelques temps. Et la dernière fois que j'y étais, cette personne-là m'avait un peu préparé un déjeuner végétalien qu'elle avait trouvé sur Internet pour moi. Donc, j'en reviens à le cochon. Le niveau de la génétique, hein, je lis ici. que la sélection génétique des animaux sur des critères tels que la vitesse de croissance et le développement musculaire à un âge donné s'accompagne d'une charge pondérale de plus en plus importante sur un squelette de plus en plus immature, d'autant plus que l'on a tendance à limiter les teneurs en phosphore, minéral coûteux. Et on voit toutes sortes de déformations des os, des porcs qui sont, j'imagine, douloureux. Pour moi-même, en avoir une dans le dos, je sais que c'est assez pénible.
Par rapport à la qui parle de génétique, on voit à la télévision, qui montre que, avec la génétique, permettre de produire des médicaments à partir d'animaux qui vont se traiter de la civile, je sais pas quoi. Donc, je vous montre parallèlement des enfants qui sont handicapés, dans le fauteuil roulant, qui ont une vie, cotisée pour le génétique, cotisée pour je sais pas quoi. Donc, on peut être déstabilisé. La génétique dans certains cas c'est bon, dans d'autres cas c'est pas bon.
Tout à fait, moi je pense que la génétique n'est ni bonne ni mauvaise. La génétique en fait, déjà c'est ce qui existe en nous, qui nous part de nous-mêmes, enfin, hein, l'ADN, enfin, c'est une constitution de ce fait qu'on a un organisme qui fonctionne. Donc c'est pas spécialement quelque chose de naturel ou pas naturel, la nature serait en bon et artificiel mauvais. La génétique c'est un outil d'action, quoi, une technologie qui, suivant ce qu'on en fait, peut avoir des effets bénéfiques ou des effets négatifs. Simplement, ce qui est sûr, c'est que si on l'utilise dans un contexte où les intérêts de certains individus sont méprisés, alors, dans le cas par exemple d'utiliser des animaux pour produire des organes, donc les tuer et éventuellement les manipuler, les utiliser comme on voit dans le cadre de l'élevage, certainement ça crée de la souffrance. Et donc là, la question est posée. Alors, je ne conclue pas sur le fait de s'il faut le faire ou pas le faire. Moi, je préfère en fait poser la question et sur la. Chacun répondre, savoir si on trouve que c'est injustifié pour un être humain de le faire, de prendre ses organes, de le tuer, même si ça pourrait sauver des vies aussi. Hein, pourquoi est-ce qu'on le fait à un animal? Est-ce que c'est plus justifié? Je ne dis pas qu'il faut le faire ou pas le faire, c'est savoir. Au niveau de la génétique, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que du coup, sur le marché sont lancés des nouveaux produits qui sont des animaux plus performants qu'avant, des nouveaux modèles. Donc si vous regardez ici, le guide, c'est le guide hors sol, bizarre comme nom, hein, c'est un jeu de mots presque hors sol, l'élevage hors sol, je ne sais pas. Sur tous les fournisseurs de porcs, vous avez notamment les fournisseurs de modèles de vérales, en l'occurrence les reproducteurs. Et sur ces publicités, ici, vous avez, donc je vous l'ai dit, avec le Duca, c'est donc un nouveau modèle qui vient d'être lancé, c'est comme ça qu'on dit, on lance un nouveau modèle. Il y a une conférence de presse, hein, quand il y a un lancement d'un nouveau port, d'un nouveau modèle, la presse est invitée, il y a des démonstrations, hein, fait banquer, des articles de presse. Donc, l'unique Duroc et Piétrin, c'est un mélange donc, de deux autres ports, décuplez vos performances, plus 33,30 euros, donc 30 francs par port par charcutier. Faites vos comptes, qui dit mieux. Au fait, combien allez-vous gagner en plus avec vos charcutiers issus du Duca? Un autre exemple, un petit peu plus loin. Ici, on voit, c'est même présenté comme un nouveau modèle de voiture. On voit pourquoi cet éleveur a sa photo dans le journal. Il nous a dit, c'est parce qu'il a gagné 16 279 euros. Avec un GMQ engraissement standard. Le GMQ, c'est le gain moyen quotidien, en fait, hein, la quantité de poids qui est pris chaque jour, donc c'est ce qu'on essaye évidemment de maximiser, hein, qui est de 826 grammes par jour, grâce à la truie GTTT. Et donc il a obtenu une amélioration de 51 grammes par rapport à la moyenne. Ici, il nous est pas donné un autre critère, qui est le lycée. L'ICE, c'est l'indice de consommation, en fait. C'est dans la machine à produire de la viande, c'est la différence entre ce qui sort en viande et de ce qui rentre. Hein. Donc on veut minimiser ça, c'est-à-dire qu'on veut que le moins donner à manger, évidemment, et plus produire de viande. Enfin, la façon de faire, c'est d'immobiliser le maximum l'animal pour qu'il ne dépense pas de la nourriture, hein, en énergie, en chaleur, en vapeur d'eau. D'autres exemples de nouvelles caractéristiques, hein, des nouveaux modèles de porcs qui sont proposés sur le marché aujourd'hui. pas l'exemple, il y avait un exemple assez étonnant avec le nombre de tétines en fait. Il y avait un nouveau modèle de truie qui était lancé, qui avait 2 tétines de plus que la précédente. Donc ce modèle de truie est avantageux parce qu'il permet d'avoir 2 porcelets de plus par truie. Donc on augmente effectivement tous les ratios à ce moment-là. Alors sur un exemple comme ça, en fait, je vois rien de choquant pour la truie d'avoir 2 tétines de plus. Je ne suis pas sûr que ça la dérange particulièrement. Donc je ne dis pas que là, il y a un problème en soi. Je dis juste que c'est représentatif de la vision de l'animal comme une machine. Ce qui en soi n'est pas non plus un problème. Le problème, c'est quand c'est uniquement une vision en termes de machine et qu'on oublie qu'il y a un être sensible derrière ces rangées de tétines.
Excuse-moi, on peut peut-être aussi pousser la réflexion un peu plus loin. Du moins pour ceux qui adhèrent, hein, je dis bien pour ceux qui adhèrent à... que ce soit le nom qu'on donne à une intelligence créatrice, là on assiste ni plus ni moins à un remodelage de la création tout entière. Donc pour moi ça va beaucoup plus loin qu'une optimisation de la machine à travers l'animal, mais et effectivement à travers la manipulation génétique, entre autres, de pouvoir remodeler une création tout entière. Donc à travers le temps, l'homme, ça ne lui a pas suffi en fait de dominer la nature telle qu'elle était, mais il est visé encore plus loin que ça, de remodeler toute une création qui sort en fait pour ceux qui adhèrent à la conception d'une intelligence créatrice qui régit un certain ordre naturel, de pouvoir échapper à cela et effectivement créer une nouvelle création.
Effectivement, dans cette vision des choses, ça a cette conséquence-là, oui. Vision que je n'ai pas personnellement.
On peut éventuellement pousser cette idée, aller dans ce sens.
Parfois on est déçu des nouveaux modèles qui sortent. Là il y a un autre exemple, page 30 de Réussir Port, mois de mars 2003. En engraissement de ce modèle-là, les performances ont explosé. Mais la qualité technologique de la viande n'a pas toujours suivi. Ce sont des caractéristiques de conservation, de quantité d'eau, je ne pas bien aider assez, non seulement les qualités organoleptiques, le goût, quoi, mais aussi des caractéristiques intéressantes pour utiliser la viande comme une marchandise, quoi, en termes de conservation, je crois aussi. Dernière partie avant de conclure sur la question de savoir si tuer un animal est un meurtre. La conséquence de la vision de l'animal comme une machine à produire, elle est que ça détermine le moment de sa mort. C'est-à-dire que c'est quand il va être assez gros qu'on va l'envoyer à l'abattoir. Quand c'est une machine qui ne produit plus assez bien, qu'on va l'envoyer à l'abattoir. Donc il y a aussi quelques développements assez intéressants, si j'ose dire, qui ne changent pas la nature des choses, mais... dans un des magazines que je retrouverai plus tard, on voyait une nouvelle machine qui est proposée dans les salons. Bon, la voici, la petite, vous pourrez voir tout à l'heure. Ça s'appelle l'Optiform de Hölzler. Il y a 2 modèles. Hein. Il y a le modèle allemand, là, il y a une autre société danoise qui fait la même chose. Donc l'idée, en fait, c'est que le porc, quand il est, en fait, sans le sortir de l'endroit où il est enfermé, par des capteurs qui se trouvent au plafond, on détermine la conformation du porc. On peut le peser à un poids d'environ 1 kg est déterminée donc non seulement par le poids mais par la conformation, l'état du lard dorsal, l'épaisseur du lard par rapport au muscle. Et en fait l'ordinateur automatiquement détermine, et il y a un écran où on voit tous les numéros des porcs parce qu'ils ont des badges, ils passent d'une autre couleur pour indiquer que le porc doit être envoyé à l'abattoir. Donc ce qui est assez étonnant d'ailleurs, on peut voir que ce qui se produit, c'est que c'est au moment où l'animal est en train de s'alimenter, qui prend un peu de poids à ce moment-là, hein, est en train de s'alimenter, et simultanément, son poids s'accroît, et il y a une lumière qui s'allume sur un écran qui dit « ça y est, maintenant tu vas être tué, tu es mort, quoi, hein, de ce que tu viens de jeter à l'instant ». Ce qui rend en fait, c'est ce fait qu'il y a une notion de l'instant de la mort là, qu'on arrive à concrétiser par un signal sur un écran d'ordinateur, je trouve que c'est assez troublant par rapport à la diffusion de la mort qui existe autour de l'abattoir, puisque c'est jamais vraiment personne qui décide de quand c'est un peu flou, quoi, il y a une certaine forme, on en voit plusieurs, et puis après, hein, c'est dans les abattoirs, c'est assez caché, c'est même fait à plusieurs étapes. Sur la réflexion sur le fait de savoir si tuer un animal est grave ou pas, si c'est un acte anodin comme ça semble l'être dans la société aujourd'hui, du moins pour des animaux d'élevage. J'ai eu cette réflexion que, toujours dérivée du fait que je pense que nos pensées sont extrêmement influencées par ce que l'on fait, par nos pratiques. Et donc là, dans ce cas-là, c'est l'idée que c'est pas parce qu'on pense que les animaux ne valent rien qu'on peut les tuer pour des motifs dérisoires, comme un morceau de viande, c'est justement parce qu'on les tue pour quelque chose de dérisoire, comme un morceau de viande, que du coup on pense qu'ils ne valent rien. Parce que sinon on ne les tuerait pas pour un truc aussi anodin. Et du coup, ça fait presque boucle, quoi. Hein. Ça s'auto-entretient comme une vérité évidente en soi, quoi. Alors que c'est l'utilisation des animaux qui, elle-même, détermine la valeur qu'on leur accorde. Hein, puisque la valeur d'une chose, ce n'est pas une valeur en soi, c'est la valeur qu'on a dans l'esprit, c'est l'importance qu'on accorde à quelque chose qui lui fait sa valeur. Du coup, dans la vision d'animal-machine, c'est justement quand il n'a plus assez de valeur pour nous, hein, de valeur au sens économique, que du coup, il meurt, quoi. Et donc on le tue, quoi. Oui. Il y a un certain nombre de mythes qui posent problème quand on essaye de répandre l'idée de faire prendre conscience du spécisme, et sur lequel je dois dire que je suis très très mauvais. J'aimerais, des discussions qu'on va avoir dans les jours à venir un peu informelles, m'améliorer. C'est pour moi d'ailleurs le seul qui compte vraiment aujourd'hui, qui est crucial, c'est le premier, c'est l'idée que nous devons manger les animaux pour vivre. Je pense que c'est quand on prend conscience que c'est inutile, ça paraît tellement énorme, c'est ce qui nous semble à nous de les tuer pour ça, que du coup, il me semble que c'est un obstacle fondamental à tout le reste de la prise en compte des intérêts des animaux. De discuter, de savoir si on peut utiliser un animal ou pas pour fournir des organes dans une expérience médicale, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est beaucoup, une question beaucoup plus difficile, même en soi, en fait. Et suivant sa propre philosophie utilitariste ou autre, on peut avoir des opinions différentes, y compris vis-à-vis des humains. Donc par contre, et on ne peut pas raisonner sainement sur ce problème-là, tant qu'on continue de considérer qu'on peut les tuer pour quelque chose de futile, comme quelque chose qu'on peut même manger, quoi. Donc l'idée, et en fait c'est assez récemment seulement que je prends conscience que cette idée qu'il est nécessaire de manger les animaux, ou du moins il est utile à notre santé de le faire, puisque je pense que le plus grand monde pense que c'est nécessaire de manger les animaux pour vivre, hein, dit comme ça, par contre beaucoup pensent encore que c'est nécessaire qu'il faut manger pour être en bonne santé. Et cette idée-là, moi je l'ai eue longtemps, y compris après avoir commencé à être végétarien. Et je me rends compte que c'est, alors, une première vision c'est de dire que j'ai continué d'avoir cette vision pendant un certain temps, parce que j'étais pas encore assez convaincu de l'outrage moral, je dirais, du fait de les utiliser pour ça, quoi. Et que du coup, j'avais encore une rationalisation à me dire, j'avais besoin de les manger, c'était un peu nécessaire, quoi. Et si là, je ne les mange pas et que je prends peut-être un risque pour ma santé, ben, je le fais, c'est parce que vraiment moralement, je dois le faire, quoi. Mais c'est resté pendant un petit moment. En fait, à partir du, je me rends compte, cela dit, plus clair, c'est au moment où j'étais absolument convaincu que c'était scandaleux de les tuer pour les manger, que du coup j'étais convaincu que c'était plus nécessaire pour ma santé. Donc je trouve la coïncidence un petit peu bizarre, quelque part. Donc c'est ce qui me fait un peu penser que j'étais pas vraiment persuadé avant que c'était nécessaire pour ma santé, que c'était une rationalisation. Cela dit, quand on discute autour de soi, cet argument de dire mais il faut en manger, ou alors si tu en manges pas t'as des carences, ou alors tu manges pas d'animaux d'élevage mais il faut prendre des poissons, ou alors bon alors mais quand même des œufs, etc. Et que sans ça ça paraît très, très dangereux, quelque part un peu fou, quoi. Ou alors comportement altruiste presque déraisonnable. cette idée-là, je pense qu'elle est un énorme frein. Et moi, je négligeais pendant longtemps parce que j'étais tellement focalisé et un petit peu comme dans l'esprit de la VG Pride que je partage tout à fait, que je ne pas là en termes de changement de ce côté-là, l'esprit de dire végétarien pour les animaux, et donc on ne parle pas de sa santé, hein, raison altruiste pour le fait. Je pense qu'en fait, ben, je suis maintenant, j'en reviens pas mal, et je pense qu'il faut continuer évidemment, et c'est parce que c'est la vérité de dire qu'on est pour les animaux, que c'est la véritable raison, et que c'est la raison, mais que néanmoins on se doit d'adresser d'une manière ou d'une autre la réelle inquiétude d'une personne de se dire mais qu'est-ce qui se passe, est-ce que je pars pas à l'aventure si je me mets à faire ça, et je ne sais pas bien le faire, et je pense qu'il y a des manières de le faire. C'est moi qui atténue ce problème.
Être végétarien, c'est bon pour la santé des animaux non humains et humains.
Oui.
Et puis faire un petit truc. Mm-hmm.
C'est vrai, mais cela dit, je ne pense pas que manger de la viande, c'est si mauvais que ça. Oui. Donc j'ai du mal à. C'est vrai que je pense que manger végétarien, c'est bon pour la santé, mais je pense que manger de la viande, sans excès, comme sans excès de véhicules ou autre, c'est pas non plus mauvais pour la santé. Oui. Alors du coup, ouais, c'est un argument qui peut être retourné dans l'autre sens, éventuellement. Quoi. Oui, je pense que le. Pardon ?
Quand tu dis être végétarien, c'est bon pour la santé des animaux non humains et les animaux.
Oui, tout à fait. Oui.
Et mais aussi pour nous les humains. Mmh. Les animaux, tu te sens mieux maintenant quand tu manges de la viande, pour toi, la santé.
Est-ce que je me sens mieux dans ma tête, oui, dans le corps, pas plus, pas moins.
D'accord, ok. Donc ça change rien.
Oui. Là, c'est effectivement un niveau individuel, ça a été prévu dans une discussion de dire je te passe l'article, tu verras. La question que je me pose, c'est s'il n'y a pas quelque chose au niveau politique aussi à faire, enfin à faire. C'est-à-dire, c'est ce que font les végétariens, pour eux, les végétariens, les mouvements végétariens, quoi, disons. Maintenant, c'est jamais présenté comme un mensonge, parce qu'il y a quelque part un scandale, parce que c'est vrai qu'on peut passer ces articles-là, que ça contribue. Maintenant, quand on ouvre n'importe quel. Journal des Marie Claire, des trucs pour hommes, FHM et compagnie, ou des journaux même un petit peu plus sérieux, on a toujours, de la viande dans les aliments indispensables. Et donc, j'ai l'impression que c'est un combat titanesque, on est face à un barrage d'informations. Même les médecins, en fait, disent qu'ils mangent un peu plus de viande, ils sont un peu fatigués, même si éventuellement, ils savent que c'est pas la viande qui est nécessaire à la santé, mais des nutriments qui se trouvent dedans. Quoi. Et donc,
quand même, c'est
dur. Tout à fait, hein. Oui. Mais c'est vrai, mais il y a néanmoins toujours l'idée que la viande est nécessaire pour être en bonne santé. Je sais pas, j'ouvre ça c'est dans le journal de mon fils qui s'appelle Toupie. Hein. Il y a un petit encart pour les parents dedans. Il y avait un dossier carence et calories, comment nourrir les tout petits. Alimentation des 3-5 ans, manger et buvez équilibré. Donc là, il n'est même pas question spécialement du végétarisme ou pas. Hein. Simplement, le docteur Jacques Fricker. Donc, médecin nutritionniste, avec leur Bichard, puis avec un bouquin, il dit de l'alimentation de l'enfant, etc. Quand on dit ça, la femme compris, il dit, si c'est dans le journal et que c'est lui qui dit, ça doit être vrai. Et il dit, pour un enfant de 3 ans, vous exprimez qu'il ne faut pas donner trop à manger, en fait. Et quel exemple il prend? Prenons l'exemple du steak haché. Un adolescent a besoin de 100 grammes de viande, alors qu'un petit n'a besoin qu'un demi, voire un tiers du steak. Hein. Attention aux carences en fer, pour pallier, il faut la viande, manger de la viande, etc. C'est vrai, hein, faut faire attention quand on s'en fait un peu petit. Et donc ça, on en a partout, tous les jours. Et je ne sais pas s'il n'y a pas quelque chose, en fait, une sorte de scandale à dénoncer, je veux dire, là, du coup, au niveau politique, en fait, à un moment donné, qui ne semble pas être fait au niveau des mouvements végétariens, et de dire, c'est un scandale de mentir, quoi, simplement. Quoi. Bon, c'est encore un autre combat, on a déjà beaucoup à faire. Parce que je pense que c'est un frein, quelque part.
Demain, il y aura la projection d'une vidéo qui s'intitule Manger de la viande rend malade. Oui. Et ça abonde dans ton sens. Ça monte par rapport à la bouche médicale, ce sont des scientifiques qui ont dit ça. Ça montre que, effectivement, il y a des scandales. La viande est toxique. Certaines associations dans la viande peuvent amener le scleurose et des choses comme ça. Parallèlement à ça, il y a aussi des tracts qui montrent qu'il y a des mensonges par rapport à l'alimentation végétarienne, comme la carence en fer, comme la vitamine B12, comme un certain nombre de choses qui sont dans le sens commun. Quoi. Qui montrent que par exemple une femme enceinte, elle doit manger de la viande, etc. Donc il y a un certain nombre de mensonges qui sont des mensonges par rapport à ça.
J'ai arrêté de le voir. Salut, pour te répondre avant de l'avoir vu, c'est une manière de faire. Moi je ne crois pas pour le moment que la viande rende malade, en fait, au sens où manger de la viande est mauvais pour la santé, dans la mesure où on en consomme de manière normale, comme si évidemment si je me gave de melon toute la semaine, je vais être malade aussi. Je pense qu'il y a des risques à manger de la viande, comme il y a des risques à manger d'autres aliments, peut-être qu'il y a un peu plus de risques, je ne sais pas, de céréales et compagnie, mais je ne pense pas que c'est fondamentalement un argument sur lequel moi-même je me base. Je le généralise par exemple, je dis moi je ne le fais pas parce que je ne crois pas vrai, pour moi-même, et je viens d'être convaincu. Du coup, je préfère utiliser l'argument du fait que manger végétarien n'est pas mauvais pour la santé, simplement. Que la viande soit mauvaise ou pas, à la limite, peu importe.
Faire référence à des diététiciens dans des hôpitaux, notamment l'hôpital Bichat, qui est spécialiste de l'erreur médicale, moi, je ne sais pas.
Pourquoi généraliser. Comparaison n'est pas raison, généralisation n'est pas raison des femmes.
C'est pas une généralisation, moi j'ai vécu avec un peu de junior artistique à la Bichat, donc c'était pas un cas général.
Pas été légère dans ce contexte.
Tout à fait, c'est pas grave.
Sur le meurtre animal, En fait, ma conclusion, c'est que elle est assez faible, ma conclusion, après avoir beaucoup réfléchi, je veux dire, après être passé par des phases à mon âge de réflexion existentielle et de voir la mort approcher, même encore peut-être de loin, j'espère. Je me suis beaucoup questionné sur le sujet, en général, pour moi-même, pour les humains, pour les animaux, de savoir si vraiment mourir c'était grave et tuer, si c'était si grave que ça. Donc j'ai lu toutes les théories qui vont sur le sujet, de nouveau autour de philosophie, les droits des animaux, etc. Et aucune m'a vraiment convaincu de manière limpide. J'ai trouvé des bonnes idées partout, des choses convaincantes, des choses qui m'étaient moins. Rien de très cohérent finalement. Et ma conclusion, c'est que moi, je sais que je n'ai pas particulièrement envie de mourir, j'ai pas envie qu'on me tue, quoi. Je suis plutôt content de vivre. J'ai plutôt de la chance jusqu'à maintenant et je souhaite que ça continue. C'est tout ce que je peux conclure. Je suppose que pour beaucoup d'autres, c'est le cas, pas pour tout le monde malheureusement. Mais j'ai pas vraiment une vision de la gravité de ce que c'est finalement, à quel niveau. Je vois bien que c'est très grave. Est-ce que c'est un mal absolu, total, je ne sais pas. Est-ce que c'est plus grave que n'importe quoi d'autre, plus grave que la torture, je ne sais pas trop, j'ai l'impression que non, je ne suis pas sûr. Dans quel cas est-ce qu'on peut le faire contre la volonté de quelqu'un, dans des cas extrêmes? Pareil, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à tout ça, il y a plein de gens qui ont des idées sûrement là-dessus. J'ai arrêté de chercher finalement les réponses là-dessus. Tout ce que je sais finalement, à travers ma réflexion sur le spécisme, c'est que je suis convaincu que c'est quand même assez grave, si ce n'est pas très grave de tuer un humain contre sa volonté. Peut-être pas un mal absolu, total, mais pas loin. Ce que je suis arrivé à penser, c'est simplement que le fait de tuer un animal, c'est un acte absolument banal à l'audin, ça c'est pas logique, quoi. Pour moi c'est pas réconciliable, c'est de deux choses l'une. Soit c'est beaucoup moins grave de tuer un humain à ce moment-là, et c'est quand même un peu plus grave de tuer l'animal, hein, pour qu'on se retrouve un petit peu quelque part, soit il y a un truc qui déconne, quoi. Donc ma conclusion, c'est que c'est probablement assez grave, si c'est pas aussi grave que de tuer un humain. Pas beaucoup d'autres conclusion bien nouvelle là-dessus. Donc en conculture, si j'étais avec un autre public, J'invite à continuer de se poser la question suite à cette présentation, de savoir si le spécisme est juste ou pas. Ma conclusion, c'est évidemment que c'est une forme de discrimination injustifiée et donc très similaire au racisme ou au sexisme, qu'elle est de plus en plus incompatible avec les données de la science en termes de savoir de voir ce que c'est qu'un être sensible. Beaucoup d'animaux le sont. Que c'est en contradiction avec notre morale la plus élémentaire, ne serait-ce que de ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse, et que ça justifie des pratiques qui, quand on les regarde, comme par exemple la castration de ce porcelet pour améliorer le goût de la viande, sont révoltantes, sont injustes de manière assez évidente. Alors, comment ça se fait que le spécisme il est encore aussi présent dans les esprits? Ben, c'est qu'il est présent partout, hein, partout, tout le temps, on est tout le temps ciblé, sans arrêt, quoi. Dans la publicité, quand j'ouvre ma boîte aux lettres, on tombe sur des pubs de supermarchés comme celle-ci, Leader Price, sur les prix avec les pommes de terre, là, ou des cuisses animales, c'est pas tout à fait la même chose pour moi, quoi. Ou alors Attaque, là on parle quand même de l'animal, on donne le nom, quoi. C'était un porc, ça. Il y a marqué quand même, on le rappelle, c'est 1,49€ le kilo, c'est un demi-porc avec tête, sans cervelle ni langue. Ça rappelle quand même qu'il y avait un animal derrière. Ça c'est tous les jours quand on ouvre sa boîte aux lettres. Il y a les pubs, une fois, qui fait un petit peu réagir sur les listes aussi, celle-là, quoi, finalement. Elle est pas mal, moi je l'aime bien celle-là, quoi. Elle fait réagir, mais celle-ci elle est décalée maintenant. En fait, elle papille, c'est un four, hein, four rosière, là. Et vous inventez, nous faisons le reste. Et là, c'est la recette de l'agneau au safran des Indes. Celle-ci, en fait, elle est ratée, cette pub. C'est une bonne pub antispéciste, finalement. Hein. On voit l'animal, là, il nous regarde avec les yeux. C'est presque... Je me demande s'ils n'ont pas pris les mêmes photos que celles que j'avais tout à l'heure. C'est peut-être un mauvais exemple. Ouais. D'autres... Oui.
C'est marrant parce que tu viens de montrer des pubs antispécistes. Dans les trucs réussis à fort, il y a des pures pubs antispécistes, genre protégez-le à sa naissance et on va utiliser le cochon à tout moment.
Oui.
C'est étonnant de trouver ça là-dedans.
Oui, oui, mais les éleveurs ne veulent pas du mal aux animaux. S'ils peuvent produire et effectivement comme nous, pas travailler 70 heures par semaine et assurer leur revenu, ils n'ont pas envie de partir, on leur fait du mal. Peut-être parler de bien-être des animaux, c'est même. Il y a eu quelques résistances il y a 2-3 ans dans le milieu d'élevage au moment de la loi imposée par l'Europe, et aujourd'hui, c'est plus tellement parti en discuter, le fait que les cages soient beaucoup plus grandes. Sur celui-ci aussi, je ne sais plus qui avait posté dans une liste un extrait de ce livre-là, un livre pour les enfants, là c'est le petit tracas et gros soucis de 1 à 7 ans. C'est pour les parents qui ont des difficultés avec leurs enfants. On dit, ils refusent de manger les pauvres animaux que vous osez lui donner à manger. Depuis qu'il connaît la provenance de la viande et du poisson, il trouve cela dégoûtant. Ne paniquez pas. Votre enfant fait sa crise de végétarien, ce qui arrive à beaucoup d'enfants qui se posent des questions sur la mort. Inutile de créer un drame. Voilà ce que vous pouvez lui dire. C'est vrai que l'homme peut manger l'animal, mais l'animal ne peut pas manger l'homme. Il n'y a pas trop de rapport, là, et la morale qu'il y a derrière. Il faut faire du mal aux autres parce qu'ils ne pourront pas se défendre sans doute. Ce n'est pas du tout le problème de l'enfant à ce moment-là. Hein. Il est triste parce que tu manges l'animal, voilà, il y a quelque chose de mal qui arrive, il n'y a pas de problème. Nous, les hommes, ne mangeons pas n'importe quel animal. Nous ne mangeons jamais celui que tu connais et que tu aimes beaucoup. Aucun homme ne mange les animaux amis et compagnons de l'homme. Nous mangeons des animaux élevés pour nourrir les hommes. Des animaux qui n'ont pas une famille comme toi, qui n'ont pas d'histoire, pas de souvenirs. L'homme a des sentiments, une pensée. L'animal n'a qu'un instinct. Il ne parle pas. Et à l'enfant qui, un petit peu plus conscient des réalités, dit, référence au roi lion, oui, mais le bébé lion, il est très triste quand son papa lion il meurt. Répondez peut-être, mais tu sais bien que c'est pas pour de vrai, que c'est une histoire inventée. Faut pas l'acheter, hein. Faut le voler, hein. Ouais. Petit tracas et gros soucis de 1 à 7 ans. Merci à la personne qui avait posté dans les listes cette citation. Donc on est bombardé tout le temps, sans arrêt, toute la journée. Un autre exemple qui m'a surpris, j'ai acheté ce livre-là à l'époque où je m'intéressais à la morale. La vraie morale se moque de la morale, être responsable. Ce texte se propose de montrer l'émergence d'un nouveau principe moral, le principe de responsabilité. Et puis, chaque chapitre sur ce sujet très sérieux est entrecoupé de l'allusion à la cuisine, dont ce monsieur est passionné. Je vous cite quelques extraits. Des côtes premières d'un tendre agneau du Limousin, j'extrais avec précision une belle et longue noisette. Quel rapport avec la morale? Quel rapport avec la responsabilité? Comment la langue pourrait-elle être la pire des choses? Elle est toujours la meilleure, pour la parole, pour l'amour et pour la cuisine. À la taille, ce plat, ce doit être un agneau. Un agneau de lait? Pauvre bête, est retiré si violemment sous leur mère. Du vin de Pauillac, on le dirait mal avec le petit Bordeaux dont on ne revient pas encore. Un peu plus loin. Le principe de responsabilité, c'est un principe qui se moque des principes. C'est un principe qui s'attache aux conséquences. L'innocence, qui critique la vision de l'innocence, pouvait se réfugier dans les causalités collectives. On pouvait dire, ce n'est pas ma faute, c'est la faute de la société. Et ce monsieur qui ne semble pas faire beaucoup de rapport entre sa morale et sa pratique quotidienne, c'est Alain Etchegoyen, qui, en dehors d'être professeur au lycée Louis-le-Grand, est membre du comité national d'éthique.
Nous sommes en pleine schizophrénie.
Alors, oui. Mais en fait, il est en plein humanisme, je pense, ce monsieur. C'est-à-dire que l'idée que les animaux peuvent compter, ça ne vient pas à l'esprit, alors que la moralité, c'est quelque chose d'important dans le domaine humain. Et du coup, juste avant cette conclusion, j'oubliais, je voulais dire aussi que je pense que finalement, là où se joue le plus la propagation du spécisme, c'est évidemment à la maison, sur la phrase que vous avez lu sur ce transparent. Avec les parents qui transmettent ça aux enfants, c'est la culture. Donc c'est là aussi on a une vraie difficulté de dire que si on veut, comme je disais Galilée, changer, les aspects de cosmologie, changer une idée que l'on a vue avec le lait qu'on voit le lait de sa mère, il va falloir des raisons très très puissantes. Et là, je pense que c'est pour ça aussi qu'il est nécessaire de faire appel à l'émotion, ce que disait aussi Gandhi, je ne me souviens plus de la phrase exprès, mais si on veut effectivement faire prendre conscience de choses, faire bouger, je ne sais plus passer dans une phrase qui est mieux dite que ça, il fallait nécessairement émouvoir en fait en même temps. Et je pense que dans la liaison entre la défense animale et parler antispécisme, c'est là aussi il y a le point de connexion, je cherche à faire un peu à travers de ces vidéos, de ces citations, enfin, je fais cette présentation. On ne peut pas, si on est... On ne donne pas de l'émotion, on n'invite pas à agir. Estiva, je crois qu'il avait fait ça quelques temps pour justifier qu'il fallait faire appel à la fois à la raison et à la pitié. Donc ma conclusion, elle est volontairement un petit peu provocatrice, c'est-à-dire que là, je voudrais en fait entendre, soit maintenant, soit à un autre moment dans cette semaine, ceux qui ont beaucoup plus d'historique que moi sur l'antispécisme, beaucoup plus de réflexion, c'est la position par rapport à l'humanisme. Je ne crois pas qu'il y ait cette semaine un thème à ce sujet-là, il ne me semble pas, peut-être l'année dernière il y avait eu ça. C'est que j'ai souvent vu, y compris un article de David il y a quelque temps, l'idée que, suite à je crois un livre de Florence Burgat, qu'il fallait opposer, combattre quelque part l'humanisme par rapport à la forme spéciste qu'il a prise. Et effectivement, je partage qu'il a pris une forme de talent spéciste, comme on vient de le voir. Cela dit, j'ai un autre sentiment, alors qui me vient plus de l'intérieur, je ne sais pas trop comment le justifier précisément, donc je ne cherche pas à être rationnel là, mais j'ai le sentiment que le caractère de continuité qu'il y a à présenter dans l'histoire, ces luttes de libération, celles par exemple de l'antiracisme au travers du mouvement donc des droits de l'homme, je préfère dire de l'humanisme. Là, on voit donc que les hommes blancs et les hommes noirs sont certes différents, mais il y a quelque chose qui les réunit. Un peu simpliste à l'époque, et la notion d'homme qui leur accorde des droits fait qu'on protège leurs intérêts, et que dans une vision non seulement non raciste mais non spéciste, on peut en fait étendre cette vision-là au niveau des animaux.
Tu dis les différences entre noir et blanc, etc. Et moi, ça m'amuse beaucoup parce que j'ai une collègue qui est africaine. Depuis 10 ans, on travaille ensemble. On nous appelle les sorcières noires. Donc, je ne vois pas la différence entre les sorcières noires.
c'est différent, mais vous avez des choses en commun plus importantes que la couleur de l'eau.
Que la différence, oui, la couleur de l'eau.
Comme là, les animaux humains ou non humains qui sont des êtres sensibles dans les deux cas. Et donc, je vois, moi, en fait, une façon, parce que j'ai l'impression que d'attaquer de front l'humanisme, c'est absolument titanesque. Je veux dire que c'est tellement ancré dans la société en plus, du végétarisme en plus, l'idée que l'animal est inférieur à l'homme, etc. C'est tellement, enfin, la notion d'humanisme dans le sens, enfin, surtout dans le caractère positif que ça comporte. C'est-à-dire, autant le spécisme, on peut montrer que c'est plutôt des choses qui discriminent, qui sont négatives quand on en parle, quoi, hein, on parle d'utilisation des animaux, de souffrance, etc. Quand on parle d'humanisme, c'est toute une histoire d'évolution réelle, majeure, de progrès de civilisation, de prise en compte des intérêts d'individus différents, mais qu'on prend à hauteur égale parce qu'ils ont des choses en commun qui sont plus fondamentales. Et c'est exactement la même chose que le combat antispéciste. Et donc j'ai l'impression que plutôt que d'aller contre l'humanisme de front, c'est plutôt pour moi l'idée de dire que il faut parler de revenir aux principes de l'humanisme, qui sont ceux que l'on vient d'évoquer là, contre ceux qui l'ont dévoyé de manière spéciste. Et c'est-à-dire que ceux qui ont tourné une philosophie qui visait à arrêter les discriminations et à dire tous les humains sont égaux, hein, tous, hein, cela et cela et cela aussi, il y a des raisons pour... c'est devenu seulement les humains sont égaux. Et je pense qu'en arrivant à distinguer ces deux niveaux, les vrais principes fondamentaux qu'il y avait derrière l'humanisme qui sont fondamentalement bons et que nous-mêmes nous reprenons de la manière dont il a été dévoyé par des faux humanistes, peut-être en employant le terme de nouvel humaniste ou humanisme, je ne sais pas, on pourrait s'inscrire dans un... de manière plus explicite que c'est fait, je pense, aujourd'hui, dans un mouvement de pensée profond de la civilisation occidentale, qui a lui-même une dynamique propre, qui continue aujourd'hui avec, par exemple, le droit d'ingérence, hein, et dans lequel on pourrait s'inscrire. Voilà, maintenant, juste pour conclure sur une note un petit peu plus personnelle, je voudrais citer des mots de quelqu'un dont je n'ai pas voulu grand-chose, mais souvent, le peu que j'ai vu, qui ne m'a pas toujours accroché, qui est Elisabeth de Fontenay, mais qui avait dit dans une conférence où j'ai chopé à la radio, des choses qui avait su exprimer des choses que j'aimerais savoir dire comme ça. C'est, en parlant donc l'utilisation des animaux par les hommes, que la cruauté dont il s'agit dès lors porte un nom tout simple, l'indifférence. Nous ne sommes pas sanguinaires et sadiques. Nous sommes indifférents. Passif, blasé, détaché, insouciant, blindé, vaguement complice, plein de bonne conscience humaniste, et rendu tel par la collusion du rationalisme, de la tradition catholique, de la technoscience et de l'horreur économique. Le fait de ne pas savoir ce que d'autres font pour nous, de ne pas être informé, loin de constituer une excuse, accable ces êtres doués de conscience et de responsabilité que nous prétendons être. Et je rajoute, en paraphrasant la phrase de Dr Kaplan qu'on voit souvent sur les sites web végétariens, lorsque nos petits-enfants nous demanderont « Mais à votre époque, vous saviez que tout cela existait, n'est-ce pas ?» et que nous répondrons oui d'un hochement de tête embarrassé, faudra-t-il qu'on attende la question suivante un peu comme une sentence « Mais alors pourquoi vous n'avez rien fait ?» Donc ce que j'ai envie de dire en fait à ceux qui découvrent le niveau du scandale de l'exploitation des animaux, c'est de leur faire une simple requête en fait, et je laisserai sur cette conclusion, c'est de leur dire s'il n'y avait qu'une chose à retenir de ce que j'ai dit, c'est simplement que ce soit sous forme de deux questions que je voudrais qu'ils se posent à chaque fois qu'ils voient un animal utilisé par des humains, c'est de se demander si, premièrement, c'est dans l'intérêt de l'animal, et deuxièmement, si c'est pas dans son intérêt, alors dans ce cas-là, est-ce qu'il y a une véritable raison pour laquelle on lui fait ça, autre que de simplement dire qu'il n'est pas de la même espèce que nous, et que sinon, que peut-être ils penseront comme moi qu'un jour que cette situation est injuste et qu'elle est même indigne de la situation que nous prétendons avoir atteinte.